les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les autres voies de la presse, nous vous proposons la suite de notre entretien avec Jean-François Hamel à propos de son livre « Les feuilles de l'après-mai, une histoire littéraire du gauchisme ». Son livre aborde au cœur des années 70 la parution de dizaines de journaux qui naîtront des rangs du gauchisme et perpétueront l'insubordination poétique, rhétorique et médiatique du soulèvement de mai. Cette presse, dite tour à tour libre, parallèle et sauvage, ne cesse sera d'expérimenter la performativité politique des actes d'écriture, c'est-à-dire leur capacité à agir et à faire agir. Tout de suite, donc, deuxième partie de notre entretien avec Jean-François Hamel. Et dans votre ouvrage, vous terminez, alors qu'on est sous un flot de paroles, de créations, de médias, une diversité de titres, vous terminez quasi avec cet exemple donc, de Deligny, et là où c'est le droit au silence. Deligny lui-même qui dit que toute prise de parole serait l'expression de la servitude volontaire. On a l'impression que face à ce grand déballement de mots, d'écrits, de slogans, de Dazibao et autres, d'un seul coup, là, ben, en fin de compte, même là, on s'est fait piéger. On est encore dominé par le système.
Je ne sais pas si Deligny a raison. Je ne veux pas, en le citant à la fin du livre, dire qu'il a mis fin au gauchisme. Ce que je remarque, c'est que dès 68, il y a chez les militants et les militantes une croyance dans les pouvoirs de l'écrit. Il y a la conviction qu'il n'y a pas d'émancipation sans la venue à l'écriture, d'où toute une série de pratiques qui vont favoriser la venue à l'écriture de celles et ceux qui en sont généralement exclus. Par exemple, le genre de l'enquête. On mène des enquêtes pour que les enquêtés deviennent eux-mêmes des enquêteurs, pour que ceux sur lesquels on mène une enquête écrivent le rapport d'enquête. C'est présent dans les cahiers de mai, c'est présent même dans le torchon brûle à certains égards, c'est présent dans le groupe d'information sur les prisons mené par Foucault. Donc cette croyance dans les pouvoirs de l'écrit, dans les puissances émancipatrices de l'écriture, va en effet commencer à être questionnée vers 71, 72, dans un journal comme Tout, par exemple, Guy Oquedgem va questionner cette croyance assez tôt. Mais Deligny, il m'a intéressé parce que il est l'objet d'une attention très très grande de la part des journaux gauchistes. En 1974, au moment où on commence à dire que le gauchisme est mort. Et on voit dans La Gueule ouverte, journal écologiste, mais qui est très, très proche du gauchisme plus traditionnel à l'époque, et dans Libération, des articles sur l'expérience de Deligny. Et ces articles, systématiquement, soulignent le fait que les déçus de 68, devraient s'intéresser ou devraient même se réfugier dans les Cévennes, là où travaille Deligny, où il accueille des enfants autistes et là où il accompagne ses enfances mutiques au quotidien. Et Libération publie un dossier de 4 pages sur Deligny qui s'intitule en effet « Le droit au silence ». Et c'est évidemment paradoxal parce que Libération se donnait au moment de sa création comme mandat de rendre la parole au peuple. Et tout à coup, à peine 2 ans après ses premières formulations, Libération parle du droit au silence. Et Deligny dit en effet, quand on prend la parole, on est pris par elle. A-t-il raison, a-t-il tort? Là n'est pas la question pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est que les gauchistes s'intéressent soudainement à cette hypothèse. Prendre la parole n'est peut-être pas aussi émancipateur qu'on l'a cru. Il y a aussi des effets d'usurpation, de confiscation de la parole. Il y a aussi des risques, le risque de parler pour les autres, de parler à la place des autres. Et il y a toute une série de questionnements qui traversent la période et qui ressurgissent là. Vers 73-74, et Deligny, à cet égard, est un exemple, un signe des temps de ce regard critique que les gauchistes, à la fin de la période gauchiste, portent sur leur propre investissement dans les écritures de presse.
Et ce propre investissement, justement, ne pourrait-il pas expliquer un peu le non-renouvellement ou en disant qu'au bout d'un certain nombre d'années de pratiques, d'écriture, de publication de journaux, en fin de compte, ben, ils sont rentrés un peu dans une habitude qui a fait qu'eux-mêmes répètent un petit peu ce qui était critiqué au départ et qu'ils prennent le pas, qu'ils ne donnent plus la parole, mais qu'ils la prennent pour continuer à écrire dans leurs propres publications.
Il y a très certainement une routinisation des pratiques et des usages de l'écrit. La période la plus inventive, c'est vraiment de 70-72. Les deux années précédentes restent assez proches, je le disais, de la presse d'extrême-gauche traditionnelle. Les deux années suivantes, 72-74, je dirais, capitalise sur l'inventivité du milieu de la séquence. Mais au-delà de ça, il y a un facteur externe qui me semble devoir être pris en compte. C'est celui-ci. La période gauchiste et la période d'effervescence de la presse gauchiste coïncident très exactement avec le passage de Raymond Marcellin au ministère de l'Intérieur. Or, les historiens l'ont bien montré, Raymond Marcellin instrumentalise la loi sur la liberté de la presse pour réprimer les gauchistes. C'est-à-dire qu'il utilise la loi de 1881 pour sanctionner les militants et les militantes de base qui distribuent les journaux, qui écrivent dans les journaux. Il y a toute une répression qui est une répression de la presse qui sert ultimement à faire taire la contestation née de 68. Et cette répression menée par Marcellin, elle a d'abord pour effet, au début de la séquence, de confirmer aux gauchistes que les écritures militantes ont une puissance politique. Si le ministère de l'Intérieur réprime la presse, c'est bien parce qu'il la craint. C'est bien parce que ses écrits risquent de mettre le feu aux poudres ou de mettre le feu à la plaine, comme disaient les Mao. Mais en 1974, Marcellin quitte le ministère de l'Intérieur. C'est l'élection de Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing va, dès son premier conseil des ministres, annoncer en fanfare qu'il n'y aura plus de poursuite de la presse et que le vieux délit d'offense au chef de l'État, qui avait souvent été utilisé pour réprimer les journaux sous De Gaulle et sous Pompidou, cette offense au chef de l'État, ce délit, ne fera plus l'objet de poursuites devant les tribunaux. Le lendemain matin, le journal Libération fait sa une avec un article qui dit « Maintenant, on a le droit d'insulter Giscard ». Et c'est une suite d'injures, tête molle, saucisse sans moutarde. C'est les plus faciles. Certaines sont très vulgaires, certaines sont parfaitement insolentes. Et on voit bien que là, au fond, la contestation gauchiste se retourne un peu en farce, en humour potache. Et je pense que c'est significatif, peut-être encore plus que la présence de Deligny dans les journaux gauchistes en 1974. La répression qui avait des effets mobilisateurs tombe. Les effets mobilisateurs tombent aussi. C'est un phénomène très connu dans la sociologie des mouvements sociaux. Il y a une dynamique répression-mobilisation. C'est comme ça que commence mai 68. Quand les flics se mettent à taper sur les étudiants, ben voilà, grandes manifestations, grève générale dans Paris, et puis les grèves sauvages vont commencer. Au fond, pendant toute la séquence gauchiste, la répression de la presse va avoir des effets de mobilisation et va inciter les militants à redoubler d'ardeur et d'inventivité dans leurs journaux. Et à un moment, quand le gouvernement décide de ne plus réprimer la presse, cette puissance insurrectionnelle de l'écrit paraît s'estomper et l'un des moteurs de l'inventivité de la presse gauchiste se trouve effacé.
Vous ne pensez pas qu'on est un peu, du moins en France, dans une situation similaire avec Darmanin qui tente de censurer l'expression justement de la gauche, de l'ultra-gauche, selon comment est-ce qu'il nomme tout ça. Une situation politique également assez dure avec de la répression dans les manifestations, les différents mouvements. Est-ce que c'est une situation qui des fois semble un peu identique avec également des lois contre les casseurs et vraiment une censure qui est présente?
Tout à fait. C'est-à-dire que je pense que il y a un verrouillage juridique de la contestation en France depuis 2016, très nettement, une répression très grande depuis la loi travail et sans doute même avant. C'est un contexte complexe, là aussi. Les lois antiterroristes ont complètement changé le système répressif. Et puis la contestation est aussi là vraiment mise à mal. Ce qui m'apparaît aussi très très proche de la période actuelle, c'est des revendications de la liberté d'expression qui aujourd'hui sont mises au service de l'extrême droite et je dirais de ceux et celles que les gauchistes conspuait. C'est-à-dire que là, on a une espèce de retournement de la liberté d'expression. Les gauchistes voulaient tout dire, revendiquaient le droit de tout dire, et aujourd'hui, on le voit bien, le droit de tout dire, il est l'objet d'une reprise par ceux et celles qui tiennent des discours racistes, xénophobes, transphobes, misogynes, etc. Ce qui me semble néanmoins demeurer de la leçon des gauchistes, c'est qu'il ne suffit pas de tout dire. La liberté d'expression ne consiste pas seulement à tout dire, il faut aussi agir pour démocratiser l'expression, il faut agir sur la distribution sociale du droit à l'expression politique. Donc se demander qui parle. Qui parle pour qui? Qui parle au nom de qui? Et la leçon gauchiste, me semble-t-il, est celle-là. Il n'y a pas d'espace public véritablement libre, véritablement démocratique, tant qu'il n'y a pas une distribution égalitaire du droit à la parole. La liberté d'expression ne se réduit pas au périmètre des discours acceptables. C'est aussi l'extension maximale des locuteurs et des locutrices qui peuvent accéder à l'espace public. Et il me semble que dans les débats aujourd'hui sur la liberté d'expression, c'est cette question qu'on a un peu oubliée et qui, justement, permet à l'extrême droite de revendiquer la liberté d'expression au nom toujours du droit de tout dire, y compris de dire ce qui fâche, mais faisant complètement écran à une véritable démocratisation de l'accès à l'espace public. Il refuse que des voix minoritaires émergent dans l'espace public. Il revendique le droit de tout dire pour faire taire les voix minoritaires. Or, le gauchisme précisément soulignait qu'il n'y avait pas d'espace public démocratique sans l'émergence de ces voix minoritaires qui contestent les discours dominants et les autorités officielles. Hey America, it's Christmas time. Hey America, it's Christmas time. Been given
Les autres voix de la presse, une émission réalisée par mon papa.
Et dans cette liberté d'expression, justement, dans le droit à la parole à tout un chacun et à chacune, est-ce que ce n'est pas aussi des limites qu'on pourrait exprimer auprès de l'écrit, des journaux, sachant que justement, écrire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. donc, certaines personnes ne peuvent pas s'exprimer par l'écrit. Et on dit en France que l'arrivée des radios pirates en 77 a justement mis à mal un petit peu l'expression écrite, les médias papier, parce que la parole était justement beaucoup plus facile en termes d'expression de tout un chacun que l'écrit.
Oui, je pense en effet qu'il y a des limitations à l'écrit qui sont évidentes et dont les gauchistes avaient aussi conscience. On le voit bien dans plusieurs journaux, de manière à permettre à ceux qui n'écrivent pas selon les codes et les normes dominants, on accepte, on accueille et même on suscite ce que l'on appelle des écritures ordinaires. Alors, les journaux de l'après-mai se mettent à publier des extraits de journaux intimes, des lettres privées, des poèmes amateurs, dans les cahiers pour la folie, par exemple. On trouve des textes produits par des psychiatrisés qui n'ont absolument rien à voir avec l'information ou la contre-information au sens strict. On est là dans des écritures testimoniales, dans des écritures à la première personne. Et c'est en effet pour démocratiser l'accès à l'expression que ces journaux gauchistes ouvrent le spectre des écritures admises, que les écritures ordinaires en viennent à intégrer les journaux. Mais il n'en reste pas moins aussi qu'il y a cette limite. Comment rendre la parole par la presse écrite, à celles et ceux qui n'écrivent pas. Et ça, c'est aussi une des questions que pose Deligny. C'est pour ça que l'intérêt que les gauchistes lui portent m'intéresse. Deligny, il fait face à des enfants qui non seulement n'écrivent pas, mais qui ne parlent pas. Et il faut chercher là, et c'est ce qu'il fait, d'autres formes d'expression pour faire entendre non pas leur voix, mais leur existence, leur forme de vie, leur manière d'être. Et en effet, un renouvellement médiatique est alors nécessaire. Et je pense que les radios pirates notamment, ont pris le relais de cette démocratisation de l'expression. Et aujourd'hui, on le voit aussi avec les médias numériques. Malgré les hiérarchies algorithmiques, malgré les effets de censure, les effets de filtre, les effets de sélection des réseaux sociaux, il y a quand même des plateformes qui émergent, des blogs, des sites qui portent des paroles, des images, des écrits qui généralement, ou jusque-là, étaient tenus en marge de l'espace public. En somme, la leçon de tout ça, c'est aussi qu'aucun médium ne permet de rendre la voix à tous et à toutes. Tous les médias, tous les médiums ont des limitations, à la fois en ce qu'ils permettent d'exprimer et en regard de ceux et celles qui peuvent s'y exprimer.
On va changer de continent. Je voulais vous demander, vous êtes intéressé justement un peu à cette presse des années 70, fin des années 60 en France. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu un mouvement de presse indépendante à la même époque au Québec, alors que vous êtes frontalier avec les États-Unis où il y a quand même eu un gros mouvement, entre autres avec la Free Press aussi et le syndicat. Quelle a été un petit peu rapidement l'histoire, s'il y en a une, de la presse indépendante au Québec?
Oui, il y a une histoire de la presse indépendante au Québec. Mais d'abord, ce qui se passe en France et que j'étudie dans les feuilles de l'après-midi n'est pas parfaitement unique. En Italie, en Allemagne, pour en rester à l'Europe, il y a des mouvements aussi très proches, très semblables. On sait à quel point aussi des journaux comme Oz en Grande-Bretagne ont influencé Actuel, Le Parapluie, les journaux de la contre-culture en France. On pense évidemment aux journaux américains qui vont avoir une influence, notamment avec le Liberation News Service, avec l'Underground Press. Et donc, il y a des échanges internationaux, il y a une circulation internationale des pratiques médiatiques, des pratiques de presse, et le Québec n'est pas extérieur à cette histoire. Il y a aussi, à la fin des années 60, des contestations de la jeunesse qui, je dirais, convoque des imaginaires politiques un peu différents. La tradition de l'extrême-gauche au Québec est beaucoup moins longue et beaucoup moins riche qu'en Europe à l'époque. Il y a aussi des questions ici qui se posent et qui ne se posaient pas en France, des questions relatives à la souveraineté nationale, des questions aussi linguistiques, de domination économique aussi entre le monde francophone et le monde anglophone au Québec dans les années 60. Donc, le paysage politique est un peu différent. Et parce que ce paysage politique est un peu différent, la production médiatique le sera aussi. Et donc, je dirais que même s'il y a une inventivité relative de la presse d'extrême-gauche au Québec, elle est, pour la presse d'extrême-gauche, moins grande qu'en France. En revanche, pour la presse contre-culturelle, là, il y a des journaux absolument passionnants qui ont été produits ici, dont certains circulaient aussi en France, comme Mainmise, qui est bien connu de votre côté de l'Atlantique, qui faisait l'objet de recensions dans Libération, dans La Gueule ouverte, dans plusieurs journaux vers 73-74. C'est un journal véritablement contre-culturel avec des conseils sur l'usage récréatif des drogues, des reportages sur les communes qui se forment dans les campagnes où on fait sécession par rapport au monde moderne, au monde industriel. C'est le développement aussi de l'écologie politique, ici aussi. Et donc, il existe une presse contre-culturelle très effervescente au début des années 70 au Québec, mais elle ne s'ancre pas autant dans la tradition d'extrême-gauche qu'en Europe à la même époque, précisément parce que cette histoire n'est pas ici exactement la même.
Et en France, sur ces débuts des années 70, on voit aussi un peu le retour des mobilisations de régionalistes, hein, mais de gauche, hein, que ce soit en Bretagne, en Alsace. Est-ce qu'il y a eu un mouvement similaire au Québec? Je pense bien sûr au Québec par rapport au Canada, mais également aux différents peuples autochtones. Est-ce que les peuples autochtones ont également produit cette forme de littérature prônant un peu la défense de leur culture?
Vous me posez une question délicate. D'abord, qui est à la limite de mon savoir, mais aussi parce que ces histoires sont très compliquées, très enchevêtrées, mais je vous réponds au mieux de ma connaissance. D'abord, en effet, en France, début des années 70, cette presse gauchiste, des extensions locales, régionales, le contre-journal à Toulouse, la Côte d'Alerte à Dijon, le journal des Transparents à Tours, la Fosse commune à Saint-Étienne, et on pourrait comme ça allonger la liste. Le Québec étant beaucoup moins densément peuplé, on ne voit pas la même extension territoriale. À ma connaissance, mais il y a néanmoins des initiatives locales qui existent, mais qui sont en moins un grand nombre. La question autochtone, à l'époque, ça a été bien montré par Sean Mills, un historien québécois. La question autochtone, à l'époque, elle est surtout reconnue et défendue dans les milieux anglophones au Québec et très peu dans les milieux francophones. Il faudra attendre véritablement les années 90 pour qu'il y ait une prise de conscience dans le Québec francophone de ce rapport colonial aux peuples autochtones. Alors, les pratiques médiatiques du monde autochtone qui existaient étaient bien davantage tournées vers la langue anglaise, vers les réseaux militants anglophones et très peu vers les réseaux francophones qui étaient eux-mêmes dans une quête de reconnaissance. Il faut se rappeler que le Québec, à l'époque, le Québec francophone lutte pour son indépendance avec un point aveugle, un angle mort, la question coloniale et autochtone. Et donc, ces journaux existent, mais il faut les inscrire dans un tout autre réseau, dans un tout autre écosystème médiatique dont je ne suis pas spécialiste et qui renvoie non seulement au Québec anglophone, mais au Canada anglophone qui, beaucoup plus tôt que le Canada francophone, a pris acte de la question autochtone.
Et en effet, c'est une autre histoire, un autre continent. Monsieur Hamel, je vous remercie pour votre patience, votre témoignage. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les feuilles de l'après-mai, une histoire littéraire du gauchisme aux éditions Amsterdam. Donc un livre que je conseille à toute personne qui s'intéresse justement à l'histoire de la presse. Et puis surtout, vous avez une approche qui est très 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 intéressante. J'ai lu deux fois le livre pour être sûr de comprendre un petit peu ce que vous abordez. Et donc merci beaucoup. Les feuilles de l'après-mai, édition Amsterdam. Merci beaucoup, à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
C'était les autres voix de la presse avec Jean-François Hamel à propos de son ouvrage Les feuilles de l'après-mai, une histoire littéraire du gauchisme, paru aux éditions Amsterdam. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo ?